Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
À travers le mariage, nous parlons de la relation privilégiée vécue entre un homme et une femme. Et avec Arnaud et Antoine, nous cherchons à comprendre ce que la Bible dit à ce sujet et quelles sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann.
Et bonjour à tous.
Dans les deux premiers chapitres de la Genèse, le premier livre de la Bible, nous voyons à travers l'histoire d'Adam et Ève un mariage idéal. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup ont du mal à reproduire cet idéal qui favorise l'épanouissement. Les familles sont souvent en butte à des conflits, des abus de pouvoir et à l'infidélité. Arnaud, pourquoi peut-on avoir quelquefois du mal à s'entendre avec sa femme ou son mari? Et quand cette mésentente a-t-elle commencé pour la première fois?
L'origine du problème se trouve dans le récit que nous pouvons lire dans Genèse chapitre 3. Souvenez-vous que Dieu avait dit à Adam, ainsi qu'à sa femme, qu'il pouvait manger de tous les fruits qui se trouvaient dans le jardin d'Éden, sauf un, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors un esprit mauvais, appelé Satan, est venu déguisé en serpent, afin de tenter Ève, lui suggérant qu'en mangeant ce fruit, elle deviendra comme Dieu. Il a ainsi poussé Ève et son mari à en manger. Tous deux ont été facilement séduits par les propos du serpent, et ont désobéi à Dieu en mangeant du fruit interdit. Et lorsque Dieu est venu interroger Adam et Ève sur leur désobéissance, au lieu d'admettre leur faute, ils se sont accusés mutuellement et ont cherché à blâmer l'autre. Voilà le premier problème de couple.
Je me permets d'ajouter que même aujourd'hui, lorsqu'une difficulté survient au sein d'une famille, chacun a tendance à vouloir accuser l'autre, au lieu de se remettre en question, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Rappelons les paroles de Jésus. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère.
Merci Antoine, mais revenons à l'histoire d'Adam et Ève. Quelle en est la suite et où voulez-vous en venir?
Oui, la suite est très importante. Comme Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu s'est trouvé obligé de les punir, de les maudire, et cette malédiction pèse sur tous leurs descendants, c'est-à-dire sur tous les hommes. Adam et Ève avaient tout, mais ils ont tellement perdu. Tout comme nous, à cause de leur désobéissance. Alors, revenons à notre sujet, le mariage. Une phrase apparaît dans la malédiction prononcée par Dieu à la femme. « Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. »
Et comment comprenez-vous ce verset?
En disant « ton désir se portera vers ton mari », Dieu affirme que, pour la femme, le désir de vivre une relation privilégiée avec un homme existera toujours. Dieu a créé le mariage pour le bien de tous, et la chute de l'homme dans la désobéissance ne le remet pas en question. Le mariage existe toujours. Nous le constatons aujourd'hui, la plupart des personnes désirent vivre une relation de couple et souhaitent y trouver de l'amour. Toutefois, Dieu affirme aussi que le mal est entré au sein de cette relation intime en y apportant le malheur et les conflits. Dieu dit « Il te dominera ». Dieu envisage ici la réalité que nous constatons si souvent aujourd'hui. Le mariage devient souvent un véritable rapport de force où chacun cherche à dominer sa femme ou son mari. Et au lieu de se donner à l'autre, de l'aider à s'épanouir, chacun cherche à tirer quelque chose de l'autre, soit par la force, soit par la manipulation, afin d'assouvir ses propres besoins. Certains peuvent même agir en maître, et c'est ainsi que des femmes sont traitées comme des esclaves ou des servantes, et cela ne correspond pas du tout au dessein de Dieu pour le mariage.
Et comment se manifestent ces conflits de nos jours?
Pour la plupart, il s'agit d'hommes qui dominent leurs femmes, certains en ayant recours à des paroles agressives ou à des actes de violence. Mais parfois, certaines femmes arrivent à dominer leur mari. Quoi qu'il en soit, les querelles et les disputes au sein des couples prouvent que chacun est porté sur ses propres désirs égoïstes sans penser à aider ou à combler l'autre.
Vous peignez un tableau bien triste.
Pour beaucoup, ce sont des réalités vécues au quotidien. Malheureusement, il est tellement facile aux hommes et aux femmes de faire du mal à celui ou à celle qu'ils devraient aimer le plus. Et tant de souffrances sont vécues, souvent en silence, par ces couples qui ne s'entendent plus. Fort heureusement, tous les mariages ne sombrent pas dans le mal et le malheur. Certains mariages sont plus heureux que d'autres, et certains s'approchent plus de l'idéal voulu par Dieu. Cependant, le mariage parfait n'existe pas, car l'égoïsme réside dans chacun de nos cœurs, et cet égoïsme nous pousse à dominer l'autre.
Admettons alors que beaucoup de nos auditeurs se trouvent confrontés à des difficultés au sein de leur couple. Avez-vous des conseils à leur donner, un espoir à apporter?
Nous donnerons davantage de conseils lors de notre prochaine émission. Toutefois, nous pouvons parler d'un espoir apporté dans le livre de la Genèse, car parmi toutes les malédictions prononcées par Dieu, une promesse de bénédiction apparaît.
Laquelle? Pouvez-vous la citer?
Dieu dit au serpent, qui avait trompé Adam et Ève, « Celui qui naîtra d'elle t'écrasera la tête, et toi, tu le blesseras au talon. »
Pouvez-vous nous expliquer ce verset?
L'humanité entière est tombée sous l'emprise de Satan, mais Dieu a fait cette promesse, « Quelqu'un viendra, et il remportera la victoire sur cet esprit mauvais. » En effet, c'est ce que Jésus-Christ a accompli, en triomphant de Satan sur la croix, et en rendant libres ceux qui croient en son sacrifice. Jésus peut aussi nous aider à travailler nos relations personnelles, notamment celles du mariage. Jésus peut nous aider à faire des progrès vers l'idéal du mariage décrit par la Bible.
Antoine, voulez-vous ajouter quelque chose?
Jésus est venu dans un monde égoïste, soumis au conflit, et dans ce monde, il était un modèle d'amour, celui qui se donne pour le bien de l'autre. Nous voyons cet amour tout au long de son ministère parmi les hommes et les femmes. Nous voyons aussi cet amour alors qu'il meurt sur la croix afin d'obtenir notre salut. Dans le mariage, il y a une place pour l'amour sentimental et l'amour sexuel, mais ce que nous avons besoin de redécouvrir, c'est l'amour dont Christ est le modèle. L'amour qui renonce à soi, à son égoïsme, pour se donner à l'autre, afin de l'aider et contribuer à son bien-être. Les problèmes de couple ne peuvent être résolus que si nous prenons exemple sur l'amour de Christ, car lui seul nous montre comment vraiment aimer notre femme ou notre mari.
Merci, et nous commencerons à approfondir ces conseils la prochaine fois, lorsque nous aborderons le sujet de la fidélité et de l'infidélité. Remercions Arnaud et Antoine pour leur participation. Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour l'Église. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27.
Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par sa parole. Il a ainsi voulu faire paraître devant lui cette Église, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable.
Dans le texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul compare l'idéal du mariage à la relation d'amour qui existe entre Christ et l'Église. Et nous avons appris la dernière fois que Christ, dans son amour, a purifié l'Église de son péché afin qu'elle puisse connaître Dieu et demeurer dans sa présence. Comment a-t-il accompli cette œuvre de purification? La réponse se trouve dans le texte que nous venons de lire. Il a donné sa vie pour elle. Donneriez-vous votre vie afin d'épargner celle de votre femme, de votre mari ou bien de l'un de vos enfants? Certains l'ont fait, et nous pouvons admirer leur courage et leur amour entièrement désintéressé. Si, afin de faciliter la fuite de notre famille, nous devions affronter une bête sauvage ou un serpent venimeux, le ferions-nous ? Si, afin d'épargner à notre femme, à nos filles, les supplices d'un viol ou d'un meurtre, nous devions affronter des brigands, le ferions-nous ? Nous exposerions-nous ainsi au danger de la mort afin de garantir la sécurité de nos proches ? Il est difficile de répondre à cette question tant que nous ne sommes pas réellement trouvés dans une situation imposant un tel choix. Lorsque le monde parle d'amour, il évoque surtout les sentiments romantiques et affectifs, ou bien les passions sexuelles. La plupart du temps, ces sentiments sont égoïstes. S'agissant d'un amour intéressé, qui cherche à obtenir quelque chose de la personne aimée. L'amour dont parle la Bible, et que nous avons évoqué tout à l'heure, est très différent. C'est un amour qui se donne, comme un sacrifice, pour le bien-être et la sécurité de la personne aimée, et parfois cet amour va jusqu'à donner sa vie pour l'autre. Nous nous sommes demandé si nous donnerions notre vie pour nos proches. Quel sacrifice ! Imaginons ce que cela représente de nous priver de notre avenir en faveur d'un proche. Changeons maintenant de question. Donneriez-vous votre vie pour un ennemi ? Donneriez-vous votre vie pour garantir le bien-être et la sécurité d'une personne qui vous méprise ou qui vous a gravement offensé ? Je pense que non. Et pourtant, c'est cela que Christ a fait pour ceux et celles qu'il a sauvés en les purifiant. Nous n'arrivons peut-être pas à l'imaginer, mais tout homme et toute femme est un ennemi de Dieu, de Jésus-Christ, car en désobéissant à ses commandements, nous ne l'avons pas respecté. Malgré nos attitudes plus qu'inacceptables, Jésus-Christ s'est livré volontairement entre les mains d'hommes cruels et il a subi la mort à notre place, la mort sur la croix. C'est ainsi qu'il nous a épargné les châtiments du jugement de Dieu, car il a lui-même affronté ces châtiments, nous permettant ainsi de trouver secours et abri grâce au pardon de Dieu, ainsi que l'espérance d'une nouvelle vie. Quel sacrifice ! Voici l'amour, le vrai. Jésus-Christ nous a fait cadeau de sa vie, afin que nous puissions retrouver la véritable vie.
Merci Jean-Marc de nous rappeler à quel point Jésus nous aime. Sur la croix, il a en effet donné sa vie pour les hommes afin de les sauver. Acceptez-vous ce cadeau merveilleux? Voulez-vous à votre tour avoir pour exemple l'amour de Jésus, généreux et désintéressé?
Pour en apprendre davantage sur le mariage d'un point de vue biblique et sur l'amour de Dieu pour les siens, nous vous invitons à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous garde dans son amour.